Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Cette émission est la suite d'un entretien en 12 parties que l'écrivain Roger Caillois accorda à Janine Worms en 1970. Au programme de ce sixième volet, le mimétisme animal qui est rapproché ici du camouflage et du travestissement observé dans les sociétés humaines. C'est un exercice concret de science diagonale, pour le résumer d'une formule chère à l'écrivain, et c'est une intervention en forme de conclusion provisoire de la première moitié de ces entretiens diffusés pour la première fois en avril 1970.
Roger Caillois, nous avons parlé hier de la menthe religieuse, du fulgore porte-lanterne. Ce sont deux parmi d'autres les animaux mimétiques. Vous vous êtes beaucoup occupé du mimétisme animal. Qu'est-ce qui vous a si fort intéressé à cela?
Eh bien, ce qui m'intéressait d'abord dans le mimétisme, c'était une espèce de régression de l'animal vers l'inanimé. Une des caractéristiques de l'animal mimétique, enfin de certains d'entre eux, c'est de se confondre avec le décor, n'est-ce pas? Le caméléon prend la coule, ou la sole, ou le turbo, prennent la couleur du fond sur lequel il repose. De la même façon, le renard des neiges, ou le hibou des neiges, le harfang, devient blanc. C'est-à-dire, il tend à se confondre avec le fond de décor sur lequel il se déplace. Et ça m'est apparu une fois beaucoup plus général que je ne le croyais, quand j'ai regardé une photographie qui représentait un tigre, n'est-ce pas? Or, on ne voyait pas le tigre. On ne voyait pas le tigre parce qu'on ne voit le tigre que quand il se déplace sur un fond de bambou. Autrement, les raies, alternativement jaunes et noires, qui sont sur le pelage du tigre, se confondent avec l'alternance des bambous dorés par le soleil et de l'ombre qui subsiste entre eux. On ne voit le tigre que s'il se déplace. Mais s'il se tient immobile, on ne le voit pas. Et ceci suscitait un autre problème. C'est que le tigre est un animal qui ne craint rien, sauf le chasseur, n'est-ce pas? Pourquoi donc avait-il intérêt à se dissimuler, à se fondre le paysage? Ce n'est pas du tout pour échapper à l'ennemi, c'est pour attirer ses proies. De sorte qu'il y a deux mimétismes, un mimétisme offensif et un mimétisme défensif, n'est-ce pas? D'autre part, on peut considérer que c'est ce qui m'a frappé, qui m'a conduit à m'occuper de ces problèmes, et c'est que le mimétisme est peut-être, comme dans le cas du tigre, ou dans le cas du caméléon, de la sole, du turbo, de la rainette qui est verte parce qu'elle vit parmi les feuilles des arbres, un mimétisme de camouflage. Et ce mimétisme de camouflage, c'est la disparition de l'animal dans le décor. Mais il y a aussi un mimétisme de déguisement, c'est-à-dire où un animal inoffensif tend à se présenter comme un animal protégé, c'est-à-dire un animal qui ou bien a des armes telles qu'une guêpe, n'est-ce pas, qui a un aiguillon ou un venin, ou au contraire qui n'est pas comestible et qui ainsi désespère le prédateur. C'est-à-dire un animal est déguisé en un autre animal, qui n'est pas de son espèce, mais dont il simule l'apparence. Enfin, il y a le type de l'animal qui présente soit des énormes pinces, des appendices menaçants, comme par exemple certains scarabées, comme le Dinas Hercule par exemple, qui a des énormes pinces qui sont en réalité inoffensives, dont il ne peut rien faire, ou dans nos climats, le lucane cerf-volant. Et ou bien alors d'énormes yeux, comme beaucoup de papillons ont des ocelles, n'est-ce pas, des faux yeux effrayants, jaunes et noirs ou violemment colorés sur leurs ailes, qui sont destinés à faire peur aux oiseaux qui seraient tentés de s'en nourrir. C'est une troisième sorte de mimétisme, un mimétisme d'intimidation. Vous vous souvenez que hier, quand nous avons parlé de la menthe religieuse, je faisais un parallèle entre ce qui est automatisme chez l'insecte et ce qui est moyen conscient et organisé chez l'homme.
C'était le thème de notre émission.
C'était le thème de notre émission. Eh bien, il m'a semblé que le mimétisme offrait une vision un peu élargie de ce même parallèle. C'est-à-dire que dans le cas du camouflage, de l'insecte qui s'adapte au décor, eh bien je reconnaissais toutes sortes de choses humaines, les manteaux couleur de muraille, des conspirateurs, etc. Enfin, tout ce qui est le côté d'échapper à la vue, de devenir invisible, qui existe beaucoup dans le folklore et dans la mythologie. Les chapeaux qui rendent invisibles, les manteaux qui rendent invisibles, le goût de l'invisibilité et l'innombrable littérature des hommes invisibles, à commencer par Wells, par exemple.
Et qui s'est, non pas au niveau de l'homme invisible, mais au niveau alors de l'armement, follement développé à notre époque.
Qui sont développés et où on a d'ailleurs utilisé les capacités des insectes. Les mêmes moyens. Prenons par exemple le costume des parachutistes. Ce sont généralement des taches vertes et brunes. Et pas du tout une coloration uniforme. Et on a remarqué que si on peint un boa en vert, eh bien on ne voit que lui dans la forêt. Et les taches du boa, qui sont vertes, brunes, violettes, etc., ce sont elles qui le rendent invisible parce qu'elles brisent sa forme linéaire et serpentiforme. Elles le détruisent en tant que serpent, pour ainsi dire. Et elles en font un ensemble de surfaces éclairées ou sombres et qui font qu'il disparaît dans les feuilles brunes ou les feuilles vertes ou les feuilles pourries. Alors que chaque fois qu'on a peint un serpent, parce que c'est arrivé, qu'on peigne par exemple des pythons uniformément en vert, eh bien on les a vus immédiatement, on les reconnaissait immédiatement comme un serpent dans la verdure de la forêt. Par conséquent, il y a une certaine sorte de mimétisme des animaux qui est semblable au goût du camouflage chez les hommes, c'est-à-dire le goût de voir en étant invisible et de toute la mythologie qui est autour. Et puis, il y a le goût du déguisement que j'appellerais le goût du travesti. C'est-à-dire, et ça, nous rentrons dans l'immense sphère importante de la fête et du carnaval, où on veut se faire passer pour quelqu'un d'autre, se faire reconnaître pour quelqu'un d'autre. Les hommes se déguisent en femmes et inversement, où on se déguise en infirmière ou en cosmonaute ou en policeman ou tout ce que l'on veut. Et ça, c'est une deuxième forme de mimétisme que l'on retrouve à la fois chez les hommes, le thème de la métamorphose, le thème du travesti, et chez les animaux, qui cette fois-ci ne visent nullement à se confondre avec le décor, mais à représenter quelque chose, une autre personnalité, quelque chose qui n'est pas eux.
Le camouflage, dites-vous, répondait à un goût de l'invisibilité, je crois qu'il est devenu depuis une nécessité de l'armement. En revanche,
non pas de l'armement, mais de l'art militaire.
De l'art militaire.
Ça n'est pas tellement la nécessité qui m'intéresse. C'est beaucoup plus les légendes d'hommes invisibles et de se revêtir de quelque chose qui vous rend invisible, ou même d'avoir une bague comme Gigès, dont il suffit de faire tourner le chaton autour de son doigt pour devenir invisible. Ça n'est pas la nécessité d'être invisible dans certaines circonstances qui m'a frappé et qui m'a semblé le correspondant humain de ce mimétisme protecteur dans le monde animal, ce sont les mythes.
Oui,
les mythes d'invisibilité.
C'est votre idée, justement, l'instinct chez l'homme, l'imagination, donc les mythes chez l'animal et l'imagination chez les hommes.
Je ne pouvais pas ne pas être frappé, cette fois-ci, non pas par une correspondance, comme dans le cas de la montre religieuse, d'un certain instinct et d'une certaine mythologie, mais cette fois-ci d'une triple correspondance. D'un côté, le camouflage chez l'insecte, les mythes d'invisibilité chez l'homme. Première coïncidence. Deuxième coïncidence, le goût du carnaval et du déguisement et du travesti chez l'homme et le goût chez l'insecte de se présenter comme un autre animal, et généralement comme un animal offensif, comme un animal méchant. C'est-à-dire un papillon se présentera comme une guêpe, ou un petit scarabée tout à fait inoffensif se présentera comme une fourmi, qui elle est armée avec des acides et des pinces. Et le troisième, peut-être le plus général, qui m'a semblé alors là le plus révélateur et le plus instructif dans tout ce domaine du mimétisme, c'est le masque. Et c'est là que nous retrouvons le fulgore porte-lanterne qui porte un masque de crocodile. C'est là que nous retrouvons les papillons qui portent des socelles, c'est-à-dire des faux yeux, des yeux qui sont destinés à fasciner, à méduser, à paralyser l'ennemi ou à le faire fuir. Et l'usage du masque qui est général dans toutes les sociétés humaines. On ne connaît pas de société humaine qui n'ait pas utilisé le masque. Et ça, c'est toujours un mimétisme, mais un mimétisme qui est destiné à effrayer et non pas à effacer celui qui s'en sert.
Quelle différence entre le masque et le déguisement ?
Dans le déguisement, on cherche à paraître quelqu'un d'autre. n'est-ce pas? Je vous ai dit à l'instant, on cherche à représenter un animal, l'animal qui se déguise prend la forme d'un autre animal. Avec les ocelles, par exemple, ou avec le masque, il ne cherche à représenter absolument pas quelque chose de défini ou quelque chose d'identifiable. Il cherche simplement à faire peur. Ce que j'appelle mimétisme d'intimidation, c'est de provoquer une peur qui n'est pas justifiée. Et c'est aussi cela que de l'utilisation des masques dans les sociétés primitives ou même dans les sociétés très développées comme la société grecque ou les acteurs, par exemple, qui sont des anciens officiants de cérémonies religieuses, veulent représenter, non pas se déguiser en quelqu'un d'autre, mais prendre l'apparence de quelqu'un qui n'existe pas et qui, précisément parce qu'il n'existe pas, est effrayant et paraît quelque chose qui n'appartient pas à la nature, qui est surnaturel.
Est-ce que je me trompe, ou bien est-ce que vous dites qu'une des seules survivances du masque dans le monde contemporain est l'uniforme ?
Je ne crois pas. Je ne crois pas à ça.
Qui serait destiné à effrayer, en fait.
Je crois que l'uniforme est plutôt destiné à séduire et puis à faire reconnaître une hiérarchie. Non, je ne pense pas à cela. Il y a des masques, beaucoup de masques dans l'univers contemporain, mais quelquefois ils sont utilitaires. C'est par exemple le masque que met le chirurgien pour se protéger des microbes, ou on peut penser que le casque du scaphandrier est une sorte de masque. Et puis il y a les masques mondains, ou les masques du carnaval, qui sont destinés à faire agir la personne comme s'il était un autre, n'est-ce pas? Et toute la série des masques de théâtre, mais ça, nous retombons dans la nécessité ou le goût de représenter ou de faire croire, d'ailleurs fictivement, qu'on est quelqu'un d'autre que soi-même.
Aucun rapport entre ce masque concret et physique, qui est le masque de théâtre par exemple, ou celui du carnaval, et le masque purement moral, qui est celui de la fonction.
Ah bien ça, c'est un masque que... Le masque moral, pour moi, c'est presque contradictoire. Le masque est toujours quelque chose que l'on met devant soi pour tromper, c'est-à-dire pour se cacher, pour disparaître, ou bien pour faire peur. Et on achète les masques dans les sociétés primitives pour passer de la classe de ceux qui sont terrifiés à ceux qui deviennent ou qui ont le droit, ou qui ont acquis le droit en même temps que le masque, le droit de terrifier les autres. Il y a même des sociétés qui sont fondées sur le port du masque.
Roger Caillois, vous ne voulez donc pas qu'il y ait de mascarade dans notre société, vous ne voulez pas qu'une carte de visite de PDG soit un masque, le masque d'une sorte de compétence plus ou moins assurée, ou celle des hauts fonctionnaires d'eux-mêmes.
Ben non, je crois d'ailleurs que chacun est masqué, n'est-ce pas? Chacun présente une apparence, mais ça me semble la règle du jeu social. Ça ne me semble pas du tout comparable au phénomène tel qu'il se présente chez les animaux, parce que c'est vraiment leur corps à ce moment-là qui est modifié, et le fait de revêtir un costume, par exemple pour un ambassadeur, le met dans la peau de sa fonction. Mais ça c'est le jeu social. C'est le jeu social, tandis que je veux me placer sur le plan du mythe, n'est-ce pas? Que le masque, par exemple, fait que l'on est persuadé que l'on incarne un esprit, que l'on se conduit comme c'est un esprit, que l'on se sent transformé, que l'on se sent possédé par une force qui vous est extérieure. Et là, ça me paraît aller beaucoup plus loin que le simple personnage social qui fait que l'on agit à tout moment, ouais, pour une part, comme une sorte d'acteur.
Je regrette que le Fulgore ne soit pas le grand-père du PDG ou simplement du douanier. Je m'aperçois que nous avons fait le tour de toute une partie de votre œuvre, celle qui a trait principalement à la sociologie, aux travaux que vous avez faits sur le mimétisme animal, mais il reste toute une autre partie aussi importante, si ça l'est davantage, et peut-être plus intéressante encore, relative alors à la littérature elle-même, à la poésie, au roman, à la place de la littérature dans le monde, et à votre propre littérature, votre littérature de création. Il y a tant à dire là-dessus que j'espère que nous en retrouverons une fois ou l'autre l'occasion.
C'était Roger Caillois au micro de Janine Worms, sixième volet d'un entretien en 12 parties, première diffusion de cette émission le 4 avril 1970. À suivre.